Alors aujourd'hui, nous commençons une série qui est de saison sur la naissance de Jésus. Nous allons voir ensemble les deux premiers chapitres de l'évangile de Luc. Donc rassurez-vous, c'est une série, on ne va pas voir les deux chapitres aujourd'hui. On va voir ensemble l'annonce de la naissance de Jésus et la naissance de Jésus. Il y a quelque chose de particulier dans ces deux premiers chapitres. C'est que de manière tout à fait parallèle, nous avons l'annonce de la naissance de Jésus et sa naissance qui est mise en parallèle avec l'annonce de la naissance de Jean et sa naissance. Et c'est ce qui fait que, de manière un peu originale, nous démarrons aujourd'hui notre série sur la naissance de Jésus sans parler de Jésus, d'une certaine manière. Nous allons voir l'annonce de la naissance de Jean. Mais nous allons voir ensemble que ce n'est pas juste un bonus, un à côté, des informations supplémentaires que nous aurions sur Jean en parallèle de la vraie histoire qui concerne Jésus, mais qu'il y a un vrai sens et un vrai rôle pour cette place particulière que reçoit Jean dans l'arrivée du Fils de Dieu dans le monde. Donc nous allons prendre ensemble Luc chapitre 1, versets 5 à 25. Luc chapitre 1, versets 5 à 25. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y eut un prêtre nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort suivant la coutume du sacerdoce pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'encens. Alors, l'ange du Seigneur lui apparut, debout, à droite de l'autel de l'encens. Zacharie fut troublé en le voyant. La peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, il sera rempli de l'Esprit Saint depuis le ventre de sa mère, et il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il ira devant lui, avec l'esprit et la puissance d'Élie, afin de ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à l'intelligence des justes, et de former pour le Seigneur un peuple préparé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi le serai-je? Car moi, je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Eh bien, tu seras muet, tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se produira, parce que tu n'as pas cru mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. À sa sortie, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il se mit à leur faire des signes et demeurait muet. Lorsque les jours du service furent achevés, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme, Élisabeth, fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, elle disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi au temps où il a décidé de retirer ma honte parmi les humains. » Jusqu'ici notre lecture. Alors ce passage, pour ceux d'entre nous qui ont l'habitude de lire la Bible, peut avoir quelque chose d'habituel, de connu. Et on pourrait même dire que à une première lecture, rien ne le sépare de d'autres récits de miracles qu'on peut lire dans l'Évangile. Nous avons, comme ailleurs dans la Bible, le récit d'une bénédiction que Dieu fait à un couple qui le sert en leur annonçant qu'ils vont avoir un enfant. Zacharie et Élisabeth nous ont présenté comme des modèles de piété. Lui est prêtre, et non seulement il est prêtre, mais ce qui était non pas une obligation, mais qui était bien vue à l'époque. Il a aussi épousé une fille de prêtre. Et ils sont présentés comme suivant d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais il est précisé que Zacharie et Élisabeth n'ont pas d'enfants. Élisabeth est stérile et Zacharie et Élisabeth sont devenus trop vieux pour avoir des enfants. On peut s'imaginer que pendant toute leur vie, ça a été un sujet de prière parce que c'était à la fois une souffrance et une honte particulière de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Mais avec le temps, ils s'étaient résignés à cette situation. Il y avait une sorte de fatalité qui était devenue une réalité pour eux, c'est qu'ils étaient trop vieux pour avoir des enfants et il n'était plus temps de prier pour avoir un enfant. Mais tout change dans ce texte lors d'un jour très particulier pour Zacharie. Nous, on peut le lire un petit peu comme s'il était dans sa routine de prêtre, mais c'est un jour très particulier pour lui, même avant qu'il rencontre l'ange. L'organisation était telle qu'il devait venir deux fois une semaine dans l'année pour servir au temple. Étant donné qu'il y avait beaucoup plus de prêtres que de choses à faire, on pourrait dire, il y avait un tirage au sort pour savoir qui allait servir dans le temple. Et c'était particulièrement un honneur de pouvoir offrir l'encens. C'était quelque chose qui n'arrivait qu'une seule fois, et pas à tous les prêtres, mais ceux à qui ça arrivait, c'était une seule fois dans leur vie de pouvoir entrer dans le lieu saint pour offrir l'encens. Après une vie de piété, une vie dévouée à Dieu, il est à l'apogée de son service de prêtre. Symboliquement, il est aussi près de Dieu qu'il n'aura jamais été. Il est dans le lieu saint, seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint, mais lui a déjà cette chance particulière de pouvoir offrir l'encens dans le lieu saint. Et c'est alors que l'ange lui apparaît. Et Zacharie a une réaction tout à fait normale pour les êtres humains, il est pétrifié, il a peur. C'est intéressant de voir que c'est presque un refrain dans le ministère des anges d'avoir comme première phrase « n'aie pas peur ». Tout simplement parce que la plupart du temps, les gens ont assez naturellement peur de voir un ange apparaître. Et l'ange prophétise un certain nombre de choses sur la naissance d'un enfant et sur ce que sera cet enfant. Et on va revenir un petit peu sur ce que dit l'ange au sujet de Jean. Et malheureusement, la réaction de Zacharie, ça va être de mettre en doute, de ne pas croire premièrement la parole de l'ange. Il est un peu chamboulé, il ne s'attendait pas forcément à devoir faire face à un ange dans le temple. Mais on va aussi revenir sur sa réaction, sur son inquiétude face au message de l'ange. Et comme réponse, l'ange le rend muet, lui donne ce signe qu'il sera muet jusqu'à ce que ces choses aient lieu. Notre passage se termine avec l'accomplissement, d'une certaine manière, de cette prophétie. Élisabeth est enceinte, elle se réjouit que sa honte a été enlevée, que la parole de l'ange était vraie. Et cette histoire, quand on la lit comme ça, sans forcément aller dans toute sa profondeur, est déjà un encouragement pour nous. C'est déjà une belle image de la fidélité de Dieu envers ses serviteurs. On a coutume de dire que quand on voit la stérilité, notamment dans l'Ancien Testament, il faut saisir que c'est particulièrement une souffrance, que c'est particulièrement difficile dans cette culture, c'est une honte particulière et c'est parfois vu comme un jugement de Dieu. Mais ça ne doit pas enlever que, encore aujourd'hui, c'est une souffrance, la stérilité. Et encore aujourd'hui, cet exemple, cette image que nous avons de Dieu peut nous réconforter de voir que nous servons un Dieu qui guérit, nous servons un Dieu qui bénit. Et même si la Bible ne le présente jamais de manière systématique, que la guérison n'est pas systématique, elle est une promesse systématique pour l'éternité, lorsque nous serons avec notre Dieu, mais pour l'instant, nous servons un Dieu qui a cette liberté, a ce pouvoir de bénir ses enfants, de faire des miracles. Et déjà là, c'est un premier encouragement pour nous. Que ce soit la stérilité ou quelconque maladie, Dieu nous est présenté comme celui qui vient bénir ses enfants, y compris au travers du miracle. Mais je voudrais ce matin qu'on aille plus loin. Non pas révéler un sens caché à ce texte qui ne serait pas accessible au commun des mortels, loin de là, mais d'aller plus en profondeur de ce qui est annoncé dans ce texte. Je crois qu'il y a deux éléments qui peuvent nous échapper à une première lecture. D'abord, un élément qui concerne l'arrière-plan de l'Ancien Testament, quelque chose qui serait apparu plus clairement au premier lecteur et qui, à nous, n'apparaît pas forcément nettement. Et on pourra voir un petit peu quelle est la signification spécifique pour l'histoire d'Israël dans ce texte. Et ensuite, nous verrons un petit peu la signification aussi du doute de Zacharie, qui, là aussi, n'est d'une certaine manière qui est naturelle et d'une autre manière qui joue un rôle particulier, je crois, dans cette ouverture de l'évangile de Luc. Alors d'abord, l'importance historique, l'aspect charnière de cet événement pour l'histoire d'Israël. Je crois que bien souvent, l'une des choses qui peuvent nous empêcher de bien saisir le message du Nouveau Testament, c'est de bien saisir à quel point les auteurs du Nouveau Testament sont imprégnés de l'Ancien Testament, sont imprégnés de cette histoire d'Israël. Parfois, nous lisons le Nouveau Testament comme un peu notre livre, la partie chrétienne de la Bible, sans réaliser que ceux qui écrivent le Nouveau Testament sous l'inspiration de Dieu le font en étant dans une culture entièrement imprégnée par l'Ancien Testament et avec des attentes propres à des lecteurs de l'Ancien Testament. Et je crois que pour ce texte, de bien saisir l'importance des prophéties de l'Ancien Testament concernant la venue de Dieu, la fin des temps, a une importance particulière. Nous, il y a des textes comme ça qui sont importants pour nous. Quand Jésus dit certaines choses sur son retour, sur la fin des temps, sur l'éternité, on y apporte une importance particulière, on a tendance à mieux les retenir. Eh bien, il faut réaliser qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là pour les Israélites de cette époque, concernant l'Ancien Testament. Les prophéties qui annonçaient la fin des temps avaient une importance particulière. Et c'est spécifiquement ces prophéties qui éclaire notre texte ce matin. Je vais vous relire ce que l'ange dit au sujet de Jean, à partir du verset 13. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet d'allégresse, de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, il sera rempli d'Esprit Saint depuis le ventre de sa mère, et il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il ira devant lui avec l'Esprit et la puissance d'Élie, afin de ramener le cœur des pères vers les enfants, et les rebelles à l'intelligence des justes, et de former pour le Seigneur un peuple préparé. » Il y a quelque chose d'un petit peu mystérieux, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais l'ange lui dit « Ta prière a été exaucée. » Mais de quelle prière il s'agit? D'une certaine manière, objectivement, l'ange répond à deux prières. Il répond à la prière d'avoir un fils, mais il répond aussi à la prière qu'avait tout Israélite de l'époque, de voir le Seigneur revenir, de voir le Seigneur restaurer Israël, de pouvoir être libéré de l'emprise romaine. Donc, l'ange est en train de répondre aux deux prières. Et on peut penser plus naturellement à la première prière d'avoir un fils. Mais je crois que quand on lit attentivement le texte, et plusieurs commentateurs le soulignent, Zacharie avait d'une certaine manière abandonné cette prière. Il s'était fait une raison, il n'aurait pas de fils, lui et sa femme étaient trop vieux et c'était passé. Par contre, il était dans le temple, avec tout le peuple qui priait autour du temple, et ils voulaient tous voir Dieu agir, ils voulaient voir Dieu restaurer Israël dans sa pleine stature, comme c'était le cas avant l'exil. Et la réponse incroyable de l'ange à ce moment-là, c'est de dire que les deux réponses vont avoir lieu en même temps. On pourrait paraphraser, c'est en te donnant un fils que l'histoire reprend, que Dieu annonce qu'il est sur le point de faire quelque chose d'incroyable. Depuis plus de 400 ans, Dieu avait cessé de parler aux prophètes. L'histoire d'Israël était presque, on pourrait dire, sur pause. Il y avait des attentes fortes, mais Dieu avait, d'une certaine manière, déserté la scène et tout Israël attendait à le voir intervenir. Et cette parole que l'ange dit à Jean, à Zacharie, est tout à fait significative. Il ira devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie afin de ramener le cœur des pères vers leurs enfants. Pour un juif de l'époque, ça résonne tout de suite ces paroles. Je vais vous lire Malachie, chapitre 4, verset 5. « Je vous envoie Élie, le prophète, avant que n'arrive le jour du Seigneur, un jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leurs pères. » Ce sont les dernières paroles de l'Ancien Testament. Avant que, on pourrait dire que Dieu arrête de parler à ses prophètes comme il avait eu l'habitude de le faire, la dernière parole qu'il dit, c'est « Je vous enverrai Élie, et je vous l'enverrai pour annoncer le jour du Seigneur, pour annoncer ma venue. Et il ramènera le cœur des pères vers leurs fils. » Et c'est précisément ce que l'ange est en train de dire à Zacharie. Vraiment, ça fait clic pour quelqu'un qui a l'habitude d'attendre le jour du Seigneur. Il est en train de dire « Ton fils sera celui qui annoncera l'arrivée du jour du Seigneur. » L'histoire reprend. Luc, quand il écrit l'évangile de Luc, il n'est pas en train d'écrire le début d'une histoire. Il est plutôt en train d'annoncer au peuple d'Israël que ça y est, c'est le début de la fin. C'est la fin des temps s'ouvre à partir de là. Le temps tant attendu où le Seigneur va revenir et que son messager va venir annoncer sa venue est sur le point d'avoir lieu. C'est important pour nous en tant que chrétiens de réaliser que le Nouveau Testament n'est pas le livre des chrétiens dans le sens où l'Ancien Testament serait le livre des Juifs. Mais le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'histoire du peuple de Dieu. Nous sommes dans la continuité de ce que Dieu a fait pour son peuple. Et lorsque nous annonçons l'Évangile, nous annonçons la fidélité de Dieu envers ses promesses pour son peuple dont nous faisons partie. Et pour Zacharie, c'est une si grande nouvelle. Il voit que non seulement il va être père, mais son fils va être celui qui annonce le retour de Dieu, la restauration d'Israël. Et il va comprendre que le rôle de son fils va être d'amener le peuple à la repentance, de le préparer pour le jour du Seigneur, de préparer un peuple pour Dieu, pour ce temps de restauration. Lorsque nous lisons l'Évangile, et là nous sommes au début de l'Évangile de Luc, nous lisons l'histoire de l'intronisation du roi d'Israël, du roi du peuple de Dieu. La venue de Jésus montre vraiment la fidélité de Dieu à toutes ses promesses pour son peuple. Et la réponse de Zacharie est d'autant plus importante. Maintenant que nous avons vu l'importance historique de cet événement, je voudrais qu'on voit l'importance de la réponse de Zacharie, son manque de foi, sa mise en doute de la parole de l'ange. Sa première réaction est une réaction de doute. Il dit, mais à quoi le serais-je? Car moi, je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Et c'est vraiment important par rapport à la mission que son fils aura. Jean est annoncé comme celui qui doit amener le peuple à la repentance, qui doit amener le peuple à préparer, à se préparer pour la venue du Dieu Saint. Et lorsque ce message est annoncé, on doit tout de suite se demander, mais est-ce que ce message va être accepté? Est-ce que ce Jean, ce messager, va être accepté par Israël? Lorsque Malachie, de la même manière, annonçait la venue d'un messager, lui-même, déjà en son temps, appelait à la repentance. Il appelait le peuple à la repentance pour se préparer au jour du Seigneur. Et à son époque, le peuple, on peut le lire au verset 7, au chapitre 3, verset 7 du livre de Malachie, le peuple lui répondait, mais vous dites, en quoi devons-nous revenir à Dieu? Pour eux, il n'y avait pas de problème. Pour eux, ils n'avaient pas besoin de repentance. Donc, quand l'ange annonce la venue de Jean, on peut se demander, mais est-ce que le peuple va accepter ce message de repentance? Est-ce que Jean va être plus accepté dans son message que Malachie l'a été 400 ans plus tôt. Est-ce que ça va pas encore tourner à la catastrophe, où Dieu de nouveau va pas être en train de faire quelque chose de beau pour son peuple, et le peuple va rejeter le message de ceux qui sont envoyés pour annoncer cette bonne nouvelle? Et je crois que c'est là la gravité de la réaction de Zacharie. Bien sûr, son doute est temporaire, et ensuite il se réjouira de voir que l'ange avait dit la vérité. Mais la première personne qui peut se positionner par rapport à ce message-là commence par douter, commence par dire « Mais c'est pas possible, Dieu, tu as prévu quelque chose pour ton peuple, mais tu n'as pas choisi la bonne méthode, on n'est pas les bonnes personnes, ça va pas pouvoir se faire comme ça, va falloir trouver une autre option. » Et ça a quelque chose d'inquiétant pour nous, lecteurs de l'Évangile. On peut se dire, mais comment c'est possible que cette bonne nouvelle arrive à porter son fruit? Comment c'est possible que l'Évangile prenne place, que le jour du Seigneur soit annoncé, si la première personne à qui est annoncée la venue de Jean est reçue avec tant de doutes, tant d'incrédulité? Et je crois que, en tant que chrétien, on peut tous nous reconnaître dans cette réaction de Zacharie, et ne pas être trop rapide à se dire, mais quand même, il est dans le temple, il fait face à un ange, il pourrait quand même le croire. Je pense que Zacharie, quand il lisait l'histoire d'Abraham, pouvait se dire la même chose. Quand même, Abraham, tu aurais pu croire dans la promesse de la descendance, tu aurais pu croire ce que Dieu avait prévu et pas essayer de trouver des systèmes D pour faire en sorte d'avoir une descendance. Et l'ironie, c'est que avec ces paroles, à quoi le serais-je ? Zacharie reprend explicitement les paroles d'Abraham. Il est pleinement à la suite d'Abraham, à manifester le même doute qu'Abraham. Et nous, avec le recul, on peut se dire, mais quand même, Zacharie, tu aurais pu apprendre des leçons du passé. Mais on a du mal à apprendre des leçons du passé, surtout lorsqu'il s'agit de manquer de foi. J'aime beaucoup ce passage dans Actes 12, où il y a une réunion de prière pour la libération de Pierre. Et tout le monde est bien, bien chrétien, bien pieux. Il y a cette réunion de prière avec du temps qui est passé pour demander sa libération. Pierre est libéré par un ange. Il tape à la porte. Et alors déjà, la personne qui va annoncer la nouvelle oublie d'ouvrir à Pierre. Mais plus que ça, ceux qui sont à l'intérieur répondent à cette femme. Mais non, ça, c'est pas possible que ce soit Pierre à la porte. Ça doit être son ange ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas possible que Pierre ait été libéré. On fait difficilement plus ironique comme réunion de prière d'avoir prié pour sa libération et de refuser l'annonce qu'il a été libéré. Mais là aussi, je crois que ça montre que ça fait partie de l'histoire de... Ça fait partie de notre histoire, de s'attendre à ce que Dieu fasse de grandes choses, mais que quand Dieu prend les choses en main, d'avoir ce moment de panique, de dire, non, il doit y avoir une autre solution, ce serait... J'avais pas prévu que Dieu me réponde comme ça de manière aussi incroyable. Alors nous, dans quelle mesure nous acceptons le message de Jean? Dans quelle mesure nous acceptons le message que l'ange transmet à Zacharie? Alors d'une certaine manière, en tant que chrétien, on peut presque être offusqué de la question et se dire, mais bien sûr qu'on croit que l'ange a parlé en vérité, que Jean est le fruit d'un miracle de Dieu, que Jean est le messager du Seigneur. Bien sûr, toutes ces choses, nous les croyons. Si nous croyons dans la parole de Dieu, ça a quelque chose d'évident pour nous. Mais je crois qu'il y a au moins deux manières où on doit pouvoir être mis en garde par la réaction de Zacharie. Une première, et c'est ce que je disais avec l'exemple d'Acte 12 et cette réunion de prière pour la libération de Pierre, c'est que Dieu peut encore nous parler aujourd'hui. Dieu continue à parler. Mais qu'en général, quand Dieu nous parle, quand Dieu prend les choses en main, comment dire, Dieu met un peu à l'épreuve la souplesse de notre foi, notre capacité à accepter qu'il puisse prendre les choses en main et faire les choses de manière un peu étonnante. Je vous donnais il y a quelques instants mon témoignage de manière très synthétique, mais le jour où je me suis mis à la disposition de Dieu en disant « Peut-être que c'est toi qui es en train d'agir, qui a permis que je sois malade, qui a permis que j'étudie la Bible, la théologie, je me mets à ta disposition. Je ne m'attendais pas à qu'il me réponde sur le moment « Oui, je veux que tu me serves et je veux que tu démissionnes et que tu ailles à la fac de Vaud. » Il y a toujours ce moment où on prie, on entend la réponse et on est « Oh mince, il m'entendait. » Et je crois que l'exemple de Zacharie doit vraiment nous tenir alerte sur le fait que lorsque Dieu répond à nos prières, ça peut perturber notre confort et ça peut nous prendre par surprise. Et ça implique qu'on accepte de perdre ce contrôle d'une certaine manière et de croire au-delà de ce que nous avions prévu. Et il y a une deuxième manière, je crois, dont la réaction de Zacharie doit nous mettre en garde. C'est dans notre capacité d'accepter le message de Jean. Alors ça dépasse un petit peu le cadre du texte que nous avons lu tout à l'heure. Mais je crois que c'est très significatif que derrière l'annonce de Jean, il y a l'annonce de son message de repentance pour le peuple. Et même si je pense qu'on pourrait dire qu'évidemment, nous inscrivons à la suite de ce message et nous acceptons ce que Jean a pu prêcher. Mais je crois qu'il peut y avoir une vraie tension pour nous d'accepter, bien sûr, Jésus comme celui qui vient nous libérer, qui vient nous sauver, qui vient pardonner nos péchés, mais d'accepter aussi celui qui vient avant Jésus, avec son message de repentance, avec son message d'être amené à être préparé à recevoir Jésus. Et là, le parallèle avec Malachie est particulièrement significatif. Si on prend la réaction de Malachie juste après qu'il les ait appelés à la repentance, et que le peuple ait répondu « Mais nous n'avons pas besoin de repentance. » Malachie les met à l'épreuve au travers du message que Dieu lui donne. Il leur dit « Vous dites que tout va bien dans votre relation avec Dieu, mais faisons un test. Regardons quelles offrandes vous offrez à Dieu. » Et le problème à cette époque-là, c'était qu'ils offraient des animaux malades, des animaux qui n'étaient pas dignes d'être offerts en sacrifice. Le problème se présente moins pour nous. Nous avons moins à nous poser la question de quel type de brebis nous allons amener à l'église du tabernacle le dimanche matin. Mais je crois que le parallèle avec le message de Jean est très significatif. Je vous lis Malachie 3, verset 10. Et c'est un texte qui peut être cité dans d'autres circonstances, mais je vous le lis. « Apportez toute la dîme au trésor, qu'il y ait de quoi manger dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, je vous prie, dit le Seigneur des armées. J'ouvrirai sans faute pour vous les fenêtres du ciel et je déverserai pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. » Malachie est en train de leur dire « Mais vous aimez Dieu ? Vous n'avez pas besoin de repentance ? Faisons le test avec votre offrande et puis vous verrez si vous avez vraiment foi en Dieu, si vous vous attendez vraiment à ce que Dieu vous bénisse. » Et je crois que souvent, démarrer une nouvelle prédication sur l'argent ce matin, mais souvent l'argent joue ce rôle dans la Bible de test pour le reste de notre foi. Et je crois que la comparaison avec Luc 3, verset 10, donc je viens de vous lire Malachie 3, verset 10, donc c'est facile à retenir, le message de Jean, c'est en Luc 3, verset 10, les foules l'interrogeaient, que devons-nous faire ? Donc Jean a appelé à la repentance, et la foule dit, mais on a bien compris qu'il doit se passer quelque chose, c'est pas simplement reconnaître notre état de pécheur, mais quelque chose doit changer. Et voici sa réponse. Il leur répondait, que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Quand on demande à Jean, c'est quoi la repentance ? Jean donne essentiellement la même réponse que Malachie. Concrètement, ça ressemble à quoi dans votre vie ? Est-ce que vous êtes prêt à faire confiance à Dieu, même avec votre argent ? C'est même pas une question de générosité dans ce cas-là. Je pense que c'est vraiment une question de, est-ce que même au niveau de l'argent, vous êtes prêt à faire confiance à Dieu ? Et tout comme Israël à son époque, nous sommes, je crois, appelés à voir dans l'annonce de Jean une mise en garde. Sommes-nous prêts à recevoir tout le message de repentance ? Ici, c'est un exemple, et on pourrait prendre d'autres exemples, mais est-ce qu'on est prêt à accepter le plan de Dieu tel que lui il présente ? Est-ce qu'on est prêt à être déstabilisé quand Dieu intervient ? Et est-ce qu'on est prêt à accepter lorsqu'il nous appelle à nous repentir pour pouvoir marcher à la suite de celui qui vient nous, nous libérer et nous pardonner de nos péchés. Alors, en conclusion, c'est important de pouvoir repenser à cette journée de Zacharie. Il n'avait rien prévu de tel ce jour-là. Il n'avait probablement même pas prévu d'être tiré au sort pour entrer dans le temple. Pour lui, déjà entrer dans le temple et offrir de l'encens, c'était au-delà de toute espérance, toute attente. Et pourtant, ce jour-là, Dieu lui annonce qu'il va avoir un fils et qu'au travers de son fils, l'histoire d'Israël reprend, que les affaires reprennent, qu'il y aura un messager et que le jour du Seigneur s'approche. Et malgré sa profonde piété, sa profonde foi en Dieu, lui n'était pas prêt à être chamboulé comme ça dans son quotidien. Et sa réaction temporaire d'incrédulité nous renvoie à notre propre tendance à réagir avec incrédulité quand nous sommes déstabilisés, quand Dieu agit à contre-temps par rapport à ce que nous aurions prévu. Et vraiment, je crois que ce texte doit nous rappeler que nous servons un Dieu qui agit, un Dieu qui parle, un Dieu qui contrôle l'histoire de l'humanité, mais notre histoire en tant qu'Église, en tant qu'individu, et que marcher à sa suite, c'est bien sûr d'accepter le message de Jésus qui nous libère, mais d'accepter la seigneurie de Dieu sur nos vies qui peut nous chambouler, peut nous appeler à la repentance, peut nous appeler à ajuster notre vie pour pouvoir vraiment être un peuple qui lui est préparé, un peuple qui est préparé pour sa venue et pour l'éternité que nous allons passer avec lui. Amen. Je vais terminer par la prière. Seigneur, merci parce que tu nous dépasses. Ta grandeur nous dépasse, mais ton action aussi nous dépasse. Quand tu nous rejoins dans notre vie, quand tu nous rejoins dans notre expérience de ce monde, ça nous dépasse, ça nous chamboule, ça nous fait sortir de notre zone de confort. Mais Seigneur, nous voulons être tes serviteurs avec tout ce que cela implique. Nous voulons être un peuple qui marche à ta suite, qui accepte d'être conformé à ta volonté, de se conformer à ta volonté, qui accepte de se repentir, de ne pas vivre les choses à sa manière, mais nous voulons, en tant qu'Église, vivre les choses à ta manière, Seigneur, et avoir une foi pleine et entière que lorsque toi tu prends le contrôle, ça peut nous paraître fou, mais c'est pour le meilleur, c'est pour ta gloire, et c'est pour que ton plan merveilleux s'accomplisse, Seigneur. Amen.